La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Donald Trump est donc le premier président dans l'histoire des États-Unis à avoir pour la seconde fois essuyé une procédure de destitution.
Et à lire les comptes rendus que font aussi bien le Washington Post que USA Today de ce débat historique à la Chambre des représentants qui a conduit donc à ce deuxième impeachment en un peu plus d'un an, c'est un moment d'une grande intensité qu'ont vécu les élus au cœur même du Capitole où s'était déroulée une semaine plus tôt cette insurrection pour laquelle le président était justement mis en accusation. C'est comme si nous jugions un crime sur le lieu même où il a été commis, déclarait tout à l'heure un élu démocrate, et on est tenté d'ajouter ce sont les premières victimes de ce crime qui ont été appelées à se prononcer sur la responsabilité de son commanditaire. Plusieurs élus ont rappelé qu'une semaine plus tôt, il se cachait à quelques mètres de l'hémicycle, qui dans un bureau, qui dans un sous-sol ou entre deux portes, entendant les cris, les vitres brisées, les portes forcées et les coups de feu, et craignant, ont-ils dit, pour leur vie autant que pour la démocratie de leur pays. Beaucoup d'émotion et de gravité, donc, résume le New York Times. Il fallait bien tout cela pour arriver à convaincre les républicains de voter en faveur de l'impeachment contre celui qui a été leur leader et leur locomotive politique pendant 4 ans et qui les a ramenés au pouvoir. La métaphore de la locomotive est d'ailleurs filée par Tom McCarthy du Guardian. Hier soir, ils ont finalement été 10 républicains à se ranger aux côtés des démocrates pour voter la destitution de Donald Trump. Mais le parti républicain lui-même est-il prêt à décrocher une bonne fois pour toutes son wagon de la loco désormais hors de contrôle? Cela, on ne le saura que le 19 janvier au plus tôt, sans doute plutôt après l'investiture de Joe Biden, quand le Sénat, à son tour, va se réunir pour cette fois réellement juger Donald Trump et possiblement le condamner pour les faits de la semaine dernière. C'est là qu'est l'enjeu véritable qui empêcherait Donald Trump de bénéficier des avantages réservés aux anciens présidents et de briguer le moindre mandat politique à l'avenir.
Et pour cela, pour faire condamner Donald Trump, il faudrait que 17 sénateurs républicains sur 50 vote avec les démocrates.
Oui, 17 contre 10 seulement hier à la Chambre des représentants, on le rappelle, et le patron des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a beau expliquer à demi-mot qu'il envisage peut-être de voter la condamnation de Donald Trump. Il a toutefois refusé hier de convoquer son assemblée avant le 19 janvier pour que le vote ait lieu tant que Trump était toujours président. Il ne faut pas se leurrer, selon John Cassidy, à lire dans le New Yorker, malgré tout le mérite que l'on peut reconnaître aux 10 refuse-niqui d'hier, la grande majorité des républicains reste fidèle à Donald Trump et espérer le contraire relève du vœu pieux. Pour preuve, note Cassidy, les 10 républicains qui ont voté la destitution se sont pour la plupart gardés de prendre la parole en public pendant le débat, votant en leur âme et conscience, mais à titre personnel et sans en faire la publicité, sachant qu'ils avaient leur camp contre eux. Si victoire il y a eu hier soir pour la démocratie américaine, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ça, c'est l'analyse de Walter Shapiro pour The New Republic. Le grand mea culpa, ou au moins le sauve-qui-peut des républicains, ne semble pas à l'ordre du jour. Et que penser d'un vote, certes historique, mais qui a eu lieu dans un Capitole littéralement quadrillé par des militaires en armes et uniformes. Il y avait là, écrit Shapiro, plus de soldats américains que dans les rues de Kaboul ou de Bagdad. On se serait cru sur la ligne de front d'une guerre civile dans une démocratie naissante et assiégée. Quoi qu'il en soit, sur le site Politico, Michael Cruz ne nourrit aucun doute sur la possibilité pour Trump de rebondir, voire même de se renforcer dans cette nouvelle crise. Le journaliste raconte comment Trump a réussi à chaque fois qu'on le disait fini, lâché par tous, à transformer la mauvaise presse en force pour revenir, encore plus puissant et pour se venger de ceux qui avaient cru l'abattre. Le train Trump, encore cette métaphore, roule à l'adversité et le risque de cette procédure, c'est de faire de lui un martyr. Au cours des débats, une élue démocrate hier a dit qu'il fallait extirper le virus Trump, ce parasite toxique du corps de la démocratie américaine. Michael Cruz de Politico nous met donc en garde contre le risque bien réel de rechute collective.
Et puis vous avez également lu les pages économie de la presse québécoise, Camille.
Oui, pour tenter d'en savoir plus sur cette société canadienne francophone Couche-Tard, qui, on l'apprenait hier, a l'ambition non négligeable d'acheter le groupe français. français Carrefour. Couche-Tard, c'est une franchise qui est chère au cœur des Québécois, nous explique d'abord le Wall Street Journal, car c'est le dépanneur par excellence, cette petite épicerie du coin de la rue, celle qui reste ouverte toute la nuit et qui permet d'acheter de la bière fraîche, des chips ou je ne sais quoi d'autre, au beau milieu donc de la nuit. Alors l'imaginer, absorber le mastodonte européen avec ses 14 000 magasins, dont pas mal de très grandes surfaces et ses 320 000 employés à travers le monde, il y a là une vraie surprise, reconnaît le journal économique en ligne lesaffaires.com. Mais il y a surtout des doutes sur la stratégie déployée par Couche-Tard. Les deux entreprises ne sont pas sur le même secteur de la grande distribution, pas d'économie d'échelle à espérer d'un rapprochement entre les deux. Non, vraiment, les experts du secteur interrogés par la presse ne comprennent pas la logique, sinon à vouloir être toujours plus gros, toujours plus lourd face à la tempête que fait souffler Amazon sur la distribution mondiale. Toujours plus gros, toujours plus lourd, peut-être est-ce bien cela l'ambition de Couche-Tard et surtout de son patron Alain Bouchard, un homme que rien n'arrête selon Gérard Filion de Radio-Canada. Sous sa direction, le réseau d'épiceries de quartier québécois est devenu un groupe multinational rachetant des enseignes équivalentes aux États-Unis, en Australie et même à Hong Kong, incapable de se satisfaire du statu quo, le roi du dépanneur et de la station-service s'attaquerait donc à Carrefour pour satisfaire ses appétits insatiables. Mais la partie est loin d'être gagnée puisque, rappelle Gérard Filion, l'État français a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à la transaction si elle devait se confirmer.
Merci beaucoup Camille Magnard.